Vous écoutez
RMC.
Il est 8h et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. C'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trois questions dans l'actualité ce matin. Allez-vous être dissuadé de commander des petits colis chinois ? C'est ce week-end que va entrer en vigueur la nouvelle taxe de 2 euros pour dissuader de faire des achats sur ces plateformes. Qui va payer la facture après les crues qui ont fait de gros dégâts, vous verrez, sur les routes dans l'ouest de la France ? Et êtes-vous frustré de votre orientation professionnelle ? 4 lycéens sur 10 regrettent d'avoir trop écouté leurs parents au moment de choisir pour leur futur.
Et on vous dit tout ce matin sur la taxe sur les petits colis.
Oui, la taxe française de 2 euros qui va entrer en vigueur dimanche, en attendant la taxe européenne un petit peu plus tard dans l'année, pour lutter contre la concurrence déloyale et les prix dérisoires de ces petits colis commandés sur les plateformes asiatiques, Solène Leroux.
On l'appelle la taxe petit colis parce qu'elle s'applique aux envois de moins de 150 euros expédiés depuis un pays hors Union européenne. Mais en réalité, elle va concerner ce que contient votre colis. Si vous achetez par exemple sur Temu ou Shein deux pantalons et une lampe, il y aura une taxe de 4 euros car ce sont des articles de catégories différentes. Par contre, si vous avez craqué pour trois t-shirts, là, ça sera uniquement 2 euros, peu importe la quantité. Donc, c'est vraiment le nombre de produits différents qui détermine le montant de la taxe. Alors attention, ça ne sera pas à vous, consommateurs, de payer directement, sauf à de très rares exceptions. Ce sont bien les plateformes qui devront le faire. En revanche, elles pourraient décider de revoir leurs tarifs à la hausse pour compenser ce coût supplémentaire.
On est en plein salon de l'agriculture. Il y a du nouveau ce matin concernant l'accord avec les pays du Mercosur. L'accord controversé sous le coup de la justice européenne. Il y a l'Uruguay et l'Argentine qui sont devenus ces dernières heures les deux premiers pays sud-américains à le ratifier. C'est au printemps qu'il va y avoir du nouveau dans l'affaire du petit Émile. On vous en parle depuis ce matin, 3 ans après sa mort dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, toutes les personnes qui étaient présentes dans les parages ce jour-là vont devoir se soumettre à un test ADN. Il y en a déjà 4 qui ont été prélevés afin d'effectuer des comparaisons avec les traces ADN étrangères à la famille qui ont été retrouvées sur les vêtements du petit garçon. On reparle ce matin de l'affaire du meurtre de Matisse. Souvenez-vous de cette adolescente de 15 ans, poignardée à mort, c'était en 2024 à Châteauroux, par un autre adolescent, meurtrier condamné à 8 ans de prison ferme. Et bien aujourd'hui, Julie Brault du service police-justice à RMC, c'est le deuxième volet de cette affaire puisque c'est sa mère, la mère du meurtrier, qui sera jugée à son tour, suspectée d'avoir frappé Matisse.
Oui, à l'époque, cette mère de 37 ans avait vu son fils se saisir d'un couteau dans l'appartement familial, puis elle l'avait suivi avant de le regarder, immobile, poignardé Matisse à plusieurs reprises. À aucun moment, elle n'a tenté de s'interposer. Elle est même suspectée d'avoir giflé l'adolescent alors qu'il gisait sur le sol. Des coups qui ne sont pas liés au meurtre, mais qui ont été commis, je cite, alors que Matisse était agonisant, selon le procureur de Châteauroux. La mère de famille, qui risque jusqu'à 3 ans de prison, sera aujourd'hui jugée à huis clos lors d'un procès sous haute sécurité. Depuis qu'elle a été prise à partie et insultée l'année dernière après la condamnation de son fils pour meurtre, elle avait dû être exfiltrée du tribunal par une escorte policière.
Énième affaire de drones russes. Et il en sera question aujourd'hui avec la visite du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot en Suède. Au moment où on apprend qu'un drone, certainement russe, disent les Suédois, a été neutralisé cette semaine, alors qu'il était près du porte-avions Charles de Gaulle, le navire français qui est en mission en ce moment au large de la Suède, pour la première fois d'ailleurs dans cette région du monde. Cette question donc ce matin, qui va réparer et surtout qui va payer les dégâts sur les routes après les inondations dans l'ouest de la France? On est en pleine décrue, ça s'accélère un peu, c'est la bonne nouvelle ce matin. Mais on parle quand même de plusieurs centaines de milliers d'euros pour remettre en état les routes ravagées par les crues dans le secteur de la Réole et de Langon, les deux villes inondées par la Garonne. C'est ce que nous dit Pierre Borges, le correspondant d'RMC dans le Sud-Ouest.
Des nids de poules, voire des cratères en bord de route, c'est ce que constate Patrick Monteau dans la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, et il ne compte plus les fissures sur la voirie.
Et ça, c'est du faïençage, donc ça, c'est dû à la stagnation d'eau, et ça va s'effriter, il faudra refaire les revêtements. Au bas mot, il y en a vite pour 15-20 000 euros, hein. Faut pas rêver. Hein.
Le vice-président en charge de la voirie chiffre les dégâts à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'instant.
On espère que l'État aidera en ce sens, quoi. S'il n'y a pas d'aide, ça va impacter le budget de la collectivité, ça peut pas être autrement. Hein.
Quelques kilomètres à Langon, l'estimation des dégâts sur la voirie est toujours en cours.
La puissance de l'eau a soulevé le tapis d'enrobé. Des plaques entières de la voirie ont été complètement dégradées.
Mais Valérie Téchenet, directrice des services techniques, anticipe une facture d'au moins plusieurs milliers d'euros. Cela aura là aussi un impact sur le budget de la commune.
Des projets qui étaient prévus pour 2026, on va les décaler pour pouvoir absorber ces dépenses-là qui n'étaient pas prévues.
Les travaux pour remettre les routes en état débuteront dès cette semaine à Langon.
Il est 8h05 sur RMC, vous êtes très nombreux à réagir ce matin au 32-16 à cette étude sur l'orientation des jeunes. On est en pleine période, vous le savez si vous êtes parents, en pleine période des vœux sur Parcoursup. Et visiblement, eh bien, les parents sont un peu trop présents. Il y a 4 lycéens sur 10 qui regrettent de trop écouter leurs parents. Constat qui perdure d'ailleurs un petit peu plus tard chez les jeunes adultes qui regrettent de ne pas avoir écouté leurs propres envies. Tiens, des exemples écoutés avec Lou Garnier pour RMC.
Quand on demande à Lily son métier de rêve...
La mode, j'aimerais trop. Vraiment, c'est un truc qui me passionne.
Mais la mode, c'était un refus catégorique pour sa mère. Alors dans ses vœux Parcoursup, Lily n'a demandé que des licences de droit.
Je sais qu'elle dit pas ça pour détruire mes rêves. Elle dit ça parce qu'elle est réaliste et en vrai, elle a raison. Dans la vie, on ne fait pas tout ce qu'on veut non plus. Si je fais du droit, c'est aussi pour ma mère, parce que je la rends fière.
En classe de première, Auréa ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Mais Parcoursup, c'est déjà un sujet de conversation avec ses parents qui ont quelques idées d'orientation pour elle.
Ils me donnent des options. Ils me voient dans un côté artistique. Ma mère, elle m'a même sorti faire des vitraux. Elle dit qu'il faut se démarquer, faire des choses différentes. J'écoute quand même, parce qu'ils ont souvent des bons conseils.
Ivana, elle, se réoriente pour devenir prof d'histoire après avoir suivi les conseils de ses parents et fait une licence de droit.
Trop compliqué pour moi, c'était un petit peu, il y avait une grosse pression à l'université, même à la maison. Et là, j'ai décidé d'être sur un truc plus simple, plus cool.
Selon l'étude, près d'un jeune sur deux dit être influencé par sa famille dans son choix d'orientation.
On va revoir les skieurs des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, à peine terminé, les JO, la saison de ski alpin reprend déjà ce week-end en Allemagne pour les garçons, en Andorre pour les filles. Pour se racheter après des Jeux ratés, on peut le dire, avec une seule médaille, celle de Roman Miradoli, David Alias.
Pour Roman Miradoli, les Jeux, c'est presque déjà du passé.
Je suis passée en mode Coupe du Monde. J'ai envie d'assumer les ambitions que j'avais déjà en début de saison. Les Jeux, c'était une étape. La saison de Coupe du Monde n'est pas terminée. J'ai envie d'aller chercher devant, à la fois en descente et en super-G.
La vice-championne olympique à bord de la compétition plus légère, décomplexée.
Le statut, il change forcément un petit peu. Ça a fait sauter quelques verrous dans le sens où je me suis dit, ça y est, mentalement, je suis capable de gérer ces émotions et de pouvoir me focaliser sur mon ski. J'ai encore plus envie de voir jusqu'où je peux aller.
Pour Clément Noël, Nils Allègre ou Paco Rassa, revenu bredouille d'Italie, la Coupe du Monde sera le moyen de rebondir, selon David Chastan, directeur du ski alpin à la FFS.
Sur un événement après-jeu, il faut bien rester focus sur ce qui reste à faire. Il y a encore beaucoup de courses. Ceux qui ont fait les Jeux et qui n'ont pas réussi à aller chercher des médailles ou qui ont été frustrés, c'est rester dedans et continuer sur sa lancée du niveau qu'il a sur les courses en Coupe du Monde.
Honneur aux femmes aujourd'hui avec la descente à Zolde, avant les hommes demain à Garmisch.
Et puis on suivra à la mi-journée sur RMC le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa en football. En Ligue des Champions, ce sera soit le Barça, soit Chelsea, vous savez, pour Paris. En Ligue Europa, on pourrait avoir un choc entre Français, puisque Lyon fait partie des deux adversaires potentiels de Lille, qui s'est qualifié hier soir.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h08, l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre après 2 années de crise, le marché de l'immobilier repart.
Absolument, Apolline. Les deux grands indicateurs de l'état de santé du marché de la pierre repassent dans le vert. Le premier, c'est les prix. Et là, ceux des logements anciens ont terminé 2025 en hausse de plus d'1% par rapport à la fin 2024, après 2 années de baisse, nous disent les notaires. Alors, c'est plutôt moins à Paris, plutôt davantage en province. Et c'est plutôt plus pour les appartements et un peu moins pour les maisons. Et puis, l'autre indicateur, c'est les ventes. Et là, le nombre de transactions en 2025 a progressé de plus de 12% par rapport à 2024, malgré le fait qu'il y a eu moins d'offres. Il y a 4% d'annonces en moins l'année dernière.
À quoi est-ce qu'il faut s'attendre en 2026?
Alors le scénario qui semble se dessiner, c'est un début de reprise dans le neuf qui va bénéficier notamment des nouvelles incitations fiscales et une poursuite de la reprise dans l'ancien, mais à un rythme modéré. Il faut se rappeler qu'en 2025, il y avait ce fameux audit énergétique qui avait perturbé le marché. Ça, cette contrainte est pleinement intégrée maintenant dans les parcours d'achat. Les données que vient de publier le réseau Guy Hockey montrent un marché à plusieurs vitesses, de plus en plus compliqué quand même de trouver une maison, mais l'offre d'appartements revient. Et il y a de plus en plus à nouveau en ce début d'année d'appartements sur le marché. Les budgets des acheteurs sont à la hausse. Mais bon, ça se concentre quand même sur les appartements bien situés et économes en énergie. C'est dans les métropoles régionales que le marché se montre le plus dynamique. Nantes, Le Havre, Rennes, Grenoble. Sur la Côte d'Azur, la flambée des prix continue d'asphyxier le marché à Nice, à Antibes. Il faut pas s'attendre à des marchés très dynamiques.
Est-ce que c'est le moment d'acheter ?
Alors, quand vous lisez la presse spécialisée, c'est toujours le moment d'acheter.
Ouais.
Quand vous lisez, quand vous écoutez,
je vous espère plus honnête.
Voilà, quand vous écoutez les conseils des experts, c'est toujours aussi le moment d'acheter, parce que figurez-vous que la France est un pays particulier. L'expertise vient des réseaux d'agences.
Ah oui.
Inutile
d'accord.
de vous dire que c'est toujours aussi le moment d'acheter.
Alors, bon, vous dites quoi?
Bah, la réalité, c'est que c'est compliqué quand même d'envisager l'affaire du siècle. Hein. Les taux d'intérêt ont baissé, oui, depuis le pic de 2024, mais ils sont quand même encore beaucoup plus hauts que les 1% qu'on a connus en 2021. Donc en fait, on revient à des niveaux normaux. Le pouvoir d'achat immobilier, il a augmenté. Le pouvoir d'achat immobilier, c'est quand vous combinez les taux d'intérêt et le prix du mètre carré, qu'est-ce que vous pouvez acheter comme surface pour la même mensualité de crédit. Alors, ça s'est amélioré de 15% depuis 2023, mais ça n'empêche que par rapport à 2020, on achète quand même une pièce en moins aujourd'hui, hein, par rapport à 2020.
Donc, pour le même prix, quoi.
Donc, la réalité, c'est que si vous avez un coup de cœur ou si vous avez une urgence, allez-y, vous ne ferez pas une mauvaise affaire. Par contre, il y a peut-être quelque chose à espérer du côté de la baisse des taux d'intérêt, parce qu'il y a moins d'inflation, donc on peut espérer que ça va baisser. Et puis, il y a cet aspect attentisme pré-élection présidentielle. En général, ça fait pas trop baisser les prix, mais ça ralentit les transactions, donc ça vous laisse peut-être un peu plus de temps pour réfléchir.
Emmanuel Le Chypre, le plus honnête de tous les experts. Il est 8h11 et vous êtes bien sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, on va retrouver le meilleur d'Arnaud Demange. Notez aussi qu'à 8h30, mon invité dans le face-à-face, ce sera Pierre-Yves Bournazel, candidat Renaissance Horizon à la mairie de Paris. Il dit qu'il ne votera ni pour Dati, ni pour Grégoire au deuxième tour, qu'il se maintiendra. Est-ce que ça va tenir cette histoire? Je lui pose la question à 8h30. Vous restez bien avec nous sur RMC, les 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et c'est l'heure du meilleur d'Arnaud Demange. Il a pris quelques jours, mais il est avec nous. Il arrive en courant, il est tellement enthousiaste.
Dans ce studio, je vous trouve bien dissipé, les amis. Ça va bien? Alors, ce matin, l'affaire Epstein continue. Il y a des nouveaux noms qui sortent tout le temps. Vous avez vu hier? Cette histoire avec Vianney et Michel Sardou.
Non,
arrête.
Avec les deux chihuahuas et la confiture de fraises.
C'est horrible.
Tout ça va jusqu'au roi Charles. Hein. Après, on savait que le roi Charles était un pervers. Quel genre de monstre accepte de tromper Lady Di avec Camilla? Faut être givré quand même. Non, c'est la vérité. La vérité, on va pas se mentir. Lady Di, même après son accident, elle avait une meilleure tronche que Camilla.
Institut de médecine spatiale recherche des volontaires pour rester allongé 10 jours contre 5 000 euros.
Nous, on est là. Prenez-nous, nous cinq.
Oui, oui.
Au lit pendant 10 jours. Mais comment donc? Alors, il n'y a pas 3000 postes, hein, ça se saurait si on avait 3000 lits disponibles dans les hôpitaux. Donc, ils recherchent que 10 personnes, entre 20 et 40 ans, sportifs et en bonne santé. Donc, c'est raté, hein. C'est pour faire des tests sur l'apesanteur. 5000 euros pour 10 jours à rien faire. C'est mieux payé que sénateur. Heureusement que c'est interdit aux plus de 75 ans, sinon tous les sénateurs auraient postulé. D'ailleurs, en parlant de ça, la spationaute française.
Oui,
on en parlait tout à l'heure avec Arthur Chevalier. Et Sophie Adenau va décoller pour passer 9 mois dans la station spatiale européenne. Bravo à elle. Vous avez vu, Apolline, elle a un CV de dingue. Elle est incroyable. Ingénieure aéronautique, diplômée au MIT à Cambridge, pilote d'hélicoptère, pilote d'essai. Elle parle allemand, russe, anglais et espagnol. Elle fait du VTT, du ski, de la plongée. Elle est même prof de yoga. Quelle connasse, alors celle-là aussi. On n'avait pas assez avec Thomas Pesquet pour nous faire nous sentir comme des merdes. Il fallait la version féminine. Comme si les femmes n'étaient pas assez complexées comme ça. C'est même à ça que servent les magazines féminins. Il y a toute une littérature pour nous faire sentir mal. Nous, les hommes, tous les jours, on cherche le nom de Thomas Pesquet dans les dossiers Epstein. Hein. Faut le savoir. Hein. Et rien, salopard. Alors, Sophie Adenau va passer 9 mois dans la station spatiale. Elle pourra même emporter un smartphone dans l'espace. C'est une première. Même s'il servira pas à grand chose, je pense. Hein. C'est comme l'emporter en Lozère, si vous voulez. Ça capte pas, il n'y a pas de réseau là-haut. Courage à elle.
Une proposition de loi, Arnaud, est étudiée au Sénat pour lutter contre les dérives des sites en IFAM, MIME, les plateformes qui proposent sur Internet du contenu à la demande, essentiellement pornographique.
Oui, vous saviez, vous, qu'il existait des sites de ce genre? Moi, je tombe des nues. J'ai découvert ça. C'est fou. J'ignorais. Mathieu et moi, on est tombés des nudes.
C'est tombé des nudes.
Donc, ces plateformes fonctionneraient par abonnement, permettant aux utilisateurs d'acheter des médias personnalisés, si j'en crois, encore une fois, l'article que j'ai lu dans c'est parce que tu crois Chérie Magazine. Alors, plusieurs sénateurs ont alerté sur la multiplication des affaires de prostitution en ligne. Ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, si on veut que des femmes se déshabillent, on ne doit pas les payer en ligne. On doit les droguer.
Oui, ça c'est correct. Les sénateurs.
Ouais. Ouais, c'est mauvais réflexe. Alors jamais quand même on avait vu autant les sénateurs bosser leur dossier. J'ai parlé un peu à tous. Hervé Marseille, il a passé toute la nuit à dialoguer avec Bonas du 91 pour le travail. Jean-Jacques Michaud, il a examiné le dossier de Coquine 69. Et Gérard Larcher a travaillé toute la nuit sur les comptes de Nikita Bomba, Vampire et la Lubrique, Lulu la Goulue, Pénélope l'Interlope, Ursuline la Vaseline, Béatrice la Provocatrice, Corinne la coquine, Natacha la geisha, Inès la tigresse, Nicole la chignole et Yvonne la cochonne. Rien que ça. Super investi, hein, les sénateurs. Ça charbonne. Ça fait du bien qu'on voit de voir qu'on paye des impôts pour quelque chose.
Merci.
Ça sert.
Arnaud. Voilà. Arnaud Demange, qu'on retrouve évidemment tous les matins. Il sera de retour lundi pour notre plus grand bonheur. Il nous a manqué un peu cette semaine. Heureusement qu'on en a gardé le meilleur. Il est 8h19 et c'est l'heure de faire gagner Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour Pauline.
Rémi, félicitations, c'est vous qui avez gagné les vacances.
Ah bah super, super. Super bonne nouvelle.
Vous avez gagné le séjour Bel Embras d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bel Embras, spécialiste des clubs de vacances pour les familles en France. Rémi, vous vivez où? Vous faites quoi dans la vie?
Alors, je suis diagnostiqueur immobilier.
Ouais.
C'était bien Emmanuel Le Chiffre.
Ah, vous êtes d'accord avec lui ou pas d'ailleurs?
Ouais, tout à fait. Moi, après, j'insisterai sur un point, c'est que dans notre profession, on a un métier qui est pas forcément évident, et les gens recherchent le prix à tout prix pour payer le moins cher, alors que les diagnostics ont une importance dans une vente primordiale. Bah, oui. Et beaucoup se battent pour essayer de faire de la qualité et que les prix soient plus élevés que ce qu'ils le sont actuellement.
Alors que parfois vous êtes celui qui va pointer qu'il y a un problème, qu'il faut faire gaffe. Rémi, vous êtes diagnostiqueur quoi, sur l'énergie? Sur le DPE?
Surtout sur l'amiante, le DPE, le plomb, l'électricité. Donc certains peuvent être confrontés. Après, on peut se dire, moi je veux pas baisser ma culotte ou quoi que ce soit, mais il y a certains agents immobiliers qui vous mettent la pression pour ajouter quelques mètres carrés, parce que les prix du mètre carré sur Marseille ou Paris sont très élevés.
Ah oui, pour faire semblant que votre bien soit un peu plus grand qu'il ne l'est en vrai, quoi.
Vous avez des particuliers, vous leur sortez une lettre en D, ils vont vous dire non mais c'est pas possible, je vais faire passer quelqu'un d'autre parce que moi je veux être en C. Enfin des trucs qui sont aberrants.
On est au bord des tentatives de corruption, effectivement, dans ce que vous racontez. En tout cas, merci Rémi, et je suis très contente du coup d'en avoir profité pour avoir votre expertise. Rémi, vous avez donc gagné les vacances, on est très très heureux de vous les offrir, ça récompense aussi votre fidélité. Très belle journée à vous, il est 8h21. Dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est Pierre-Yves Bournazel. Vous avez entendu Rachida Dati hier, avec cette question évidemment, Pierre-Yves Bournazel.
Qui se veut?
Ça va? Pardon. Ouais, ça va. Pierre-Yves Bournazel, je retrouverai ma voix pour lui, vous inquiétez pas. Qui dit qu'au deuxième tour, pour lui, pas question de voter ni Dati, ni Grégoire. Mais alors, à quoi est-ce qu'il sert et quelle sera sa candidature? Je lui pose la question dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
8h28 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Pierre-Yves Bournazel.
Bonjour.
Vous êtes le candidat Horizon Renaissance à la mairie de Paris. Alors, enfin d'ailleurs, je dis que vous êtes candidat Horizon Renaissance, mais enfin, vous avez quand même été un tout petit peu lâché par le patron d'Horizon, Édouard Philippe. On va y revenir. Du coup, je me demande un petit peu finalement qui vous représentez. Vous avez dit ni Dati, ni Grégoire. Mais est-ce que vous ne vous retrouvez pas du coup un peu inutile, un peu perdu?
Ben justement, je pense que je suis très utile. Parce que les Parisiens, ils aspirent à autre chose que ce match du passé contre le passé. D'une majorité sortante qui a échoué. Et d'une droite qui est une droite régressive, qui est pour le retour en arrière d'une forme de Paris d'avant 2001. Et donc je défends une candidature solide. Et je ne suis pas candidat pour rejoindre, pour rallier, pour négocier. Je suis candidat pour permettre aux Parisiens d'avoir le choix. Je suis candidat pour gagner. Pour l'instant, il n'y a aucun bulletin qui a été déposé dans l'urne. Donc aujourd'hui, je mène campagne et je veux convaincre.
Si vous faites plus de 10%, vous vous maintenez, quoi qu'il arrive?
Je viens de vous le dire, je ne suis pas candidat pour rallier, je ne suis pas candidat pour rejoindre. C'est assez simple, je suis candidat pour gagner une élection, c'est fait pour être mené. Et je souhaite la gagner, cette élection. Parce que je sais, quand je rencontre les Parisiens sur le terrain, qu'ils aspirent à autre chose. Et ma force est différente des autres. Elle est très claire sur les valeurs de Paris. Et je regrette profondément que la gauche parisienne se radicalise. Je regrette profondément que la droite parisienne s'extrémise. Regardez les listes. Monsieur Grégoire a choisi des mélenchonistes sur sa liste. Madame Simonnet, députée de Paris. Madame Simonnet faisait campagne avec l'antisémite Jérémy Corbyn dans les rues de Paris en 2022. Il a fait rentrer le loup dans la bergerie, monsieur Grégoire. Et madame Dati, alors elle est avec madame Naffo, c'est le jeu des sept familles. On s'échange les candidats.
Qu'elles finiront toutes les deux par bosser ensemble, par fusionner
en
les listes.
En tout cas, je note qu'il y a des hémoristes sur la liste de madame Dati.
Elle l'a nié hier, mais...
Il y en a, on peut le prouver. Il y a notamment madame Nadji, qui faisait la campagne de monsieur Zemmour en 2022 et qui est aujourd'hui sur la liste de madame Dati. Et il y a des datistes qui sont sur la liste de madame Knafo, LR, qui ont rejoint madame Knafo. C'est le jeu des sept familles.
Mais vous-même, vous êtes un ancien datiste. Donc si on commence à aller chercher... Avez été le porte-parole de Rachida Dati, quand même.
Mais je parle de valeur, là. Parle de valeur. Non, mais l'extrême droite,
vous avez été datiste.
Mais j'ai été
considérable.
Mais je vous parle là de valeurs. C'est important, les valeurs. Vous vous rendez compte, madame Knafo est d'extrême droite. Et je note.
Non, mais madame Dati.
Mais madame Dati.
Elle est d'extrême droite.
Non,
pour
pas
vous.
Du tout. Alors,
parce que,
pas du
Emmanuel
tout. Je dis simplement.
Dit, c'est la peste brune.
Non, mais ça, je ne dis pas ça. Je dis clairement qu'il y a des zémouristes sur la liste de madame Dati. Je dis que madame Dati n'arrive pas à dire que madame Knafo est d'extrême droite. Est-ce qu'on peut rappeler simplement que d'abord le ministère de l'Intérieur classe Reconquête le parti de madame Knafo d'extrême droite, que le président de ce parti, monsieur Zemmour, a déjà été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité, et que madame Knafo siège au Parlement européen avec l'AFD, le groupe le plus à l'extrême droite du Parlement européen. Eh bien, les Parisiens ne veulent pas ça. Et je suis le garant d'un maire qui ne composera jamais avec l'extrémisme politique et qui permettra à Paris d'être protégé de toute cette extrémisme politique de gauche et de droite.
Quand vous étiez porte-parole de Rachida Dati, vous pensiez quoi d'elle?
De madame Dati?
Oui.
C'était en 2008-2009. J'ai essayé de l'aider sur des réformes du ministère de la Justice à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons des chemins différents. Et c'est normal. Et aujourd'hui, moi, je me bats pour des valeurs. Je me bats sur le projet aussi, parce que le projet, c'est important.
On va regarder le projet. Oui, il y a des différences, mais pas non plus énormes.
Si.
Vous êtes quand même sur les mêmes priorités.
Je vous donne
les
différences.
Vous êtes sur les mêmes priorités. Non, je voudrais quand même vous interroger sur les propos d'Edouard Philippe. Il était censé quand même... Il est venu vous soutenir en meeting.
Oui.
Il était avec vous dans votre meeting parisien, Édouard Philippe. Il est aujourd'hui à la tête du Parti Horizon qui officiellement vous soutient.
Oui.
Et pourtant, depuis que vous avez dit qu'effectivement pour vous c'était ni Dati ni Grégoire, il est revenu, mais immédiatement, quelques heures après vos propos sur cela, en disant « Non, moi je ferai tout entre les deux tours des élections municipales pour l'alternance à Paris avec un grand rassemblement de la droite et du centre ». Donc en gros, il vous dit « Non, vous vous rallierez à Dati ».
Non, et d'abord, là, cette campagne, elle n'est pas jouée, il le dit. Il dit il faut mener projet contre projet. Il a raison. Et moi,
non, mais lui, il dit déjà, dans l'entre-deux-tours, on fera le rassemblement.
Je vous réponds. Il a dit il faut projet contre projet. Je porte le projet le plus sérieux, le plus abouti, parce que le plus financé. Et je mène campagne pour défendre un projet, et je veux en parler. Je veux parler des problèmes de logement, je veux parler des problèmes de sécurité, et je pense qu'on va en parler ensemble tout à l'heure.
Mais vous comprenez bien,
il dit aussi,
Pierre-Yves Bournazel, qu'en ayant... dit cela, c'est-à-dire dit au deuxième tour, ni Dati, ni Grégoire. Et en entendant quelques heures après votre patron, j'allais dire en tout cas le patron du parti qui vous soutient, dire bah non, on va faire un rassemblement. Et on va faire un rassemblement de la droite et du centre. J'ai du mal à comprendre.
J'écoute toutes les critiques, j'ai du respect pour Édouard Philippe et je le soutiens. Je dis simplement.
Mais lui, il vous soutient.
Mais si, il me soutient, il l'a dit, c'est projet contre projet, je porte le meilleur projet. Ensuite, il veut l'alternance, je suis un candidat à l'alternance, je veux le changement à Paris. Et je pense que je suis le mieux placé pour réussir
alors,
ce changement.
Il dit pas seulement
et je mène une campagne pour gagner.
Je suis très précise, il ne dit pas seulement l'alternance, il dit un grand rassemblement. Il veut un grand rassemblement.
Eh bien, pour réussir le rassemblement, il faut voter pour moi au premier tour, puis au second tour, parce que je suis le candidat qui peut réussir ce changement et ce rassemblement. Car rien
Mais comment vous pouvez rassembler tout seul?
Mais je ne peux pas rassembler tout seul, c'est les Parisiens qui vont faire ce rassemblement. Et je sais qu'une majorité de Parisiens ne veut ni de Dati, ni de Grégoire, et mon but, c'est de les rassembler.
Aujourd'hui, vous êtes crédité autour de 12% des intentions.
Eh bien, on verra parce qu'aucun bulletin n'a été mis dans l'urne pour l'instant.
Est-ce que vous pouvez dire, donc j'ai bien compris, hein, vous rallierez à personne, vous ne ferez le rassemblement avec ni Grégoire ni Dati. Est-ce que vous pouvez dire de même de vos colistiers? Je pense notamment à Clément Beaune ou à Marlène Schiappa qui sont sur vos listes. Est-ce que vous pouvez dire que non, ils n'iront ni chez Grégoire ni chez Dati?
Mais ils n'iront pas pour une raison simple, c'est que je suis le candidat du changement. Et j'ai dit depuis longtemps que jamais je ne me rallierai à Monsieur Grégoire. Je suis candidat pour gagner. À travers vous, je veux mettre dans la tête des Parisiens. Je suis candidat pour gagner. J'ai 18 ans de légitimité, 18 ans de mandat à Paris. J'aime notre ville. Je voudrais qu'on parle, par exemple, de Ludovic, qui est un éboueur que j'ai rencontré il y a quelques semaines, qui vit à 1h30 de Paris. Il n'a pas de logement à Paris. C'est ça mon combat. C'est ça mon engagement pour Paris. C'est de résoudre les problèmes du quotidien. C'est pas la politique aérie. Ce qui m'intéresse, c'est de rendre service aux Parisiens. C'est de leur porter un projet. C'est d'être maire de Paris à temps
plein
pendant 6 ans.
Comment vous faites pour que Ludovic vive à Paris?
Eh bien justement, je veux donner la priorité d'accès au logement social aux femmes et aux hommes qui travaillent à Paris. Les éboueurs, les puéricultrices, les policiers, les enseignants, mais aussi les femmes et les hommes qui travaillent dans nos commerces, par exemple à horaires décalés, ou dans nos entreprises. C'est une question de justice, c'est important, et c'est une question de mérite. C'est important pour l'attractivité et le rayonnement de Paris.
Ça veut dire
c'est
que dans les critères pour rentrer dans un logement social à Paris, oui. Il faudra avoir un contrat de travail à Paris?
Oui, c'est une priorité, en tout cas dans le système de cotation, ça sera une priorité. D'accord. Parce que c'est important pour maintenir ces métiers. Et puis je pense que si on veut que demain, des personnes qui vivent modestement de leurs revenus puissent vivre à Paris, il faut leur permettre de se loger.
Sur la sécurité, vous disiez qu'il y a beaucoup de différences. Moi, j'ai quand même constaté que vous aviez en tout cas les mêmes priorités que celles que propose Rachida Dati, avec une grosse différence qui est aussi que vous êtes le seul, me semble-t-il, à avoir sur votre programme ce que vous appelez le pari de la probité, où vous voulez notamment garantir, donc vous dites la probité et l'éthique des élus municipaux. Vous ferez attention à ce qu'il n'y ait aucune forme de privilège, d'abus, de favoritisme. C'est ça peut-être votre différence? C'est là-dessus que vous voulez vous faire entendre quand vous dites les valeurs?
Les valeurs, c'est important, la probité. Et je pose des questions aux Parisiens. La première...
C'est ça qui fait que vous n'avez plus envie de bosser pour Dati?
Je dis aux Parisiens à qui vous...
Non, mais est-ce que c'est là-dessus? Est-ce que c'est ça? Parce qu'au fond, sur le fond, vous n'êtes pas notamment en désaccord avec ses propositions. Donc, ce qui vous plaît pas, c'est elle. Enfin, c'est.
Ah, mais non, il y a rien.
C'est l'attitude.
Mais non, il y a rien de personnel. Nous sommes différents de caractère, de tempérament, c'est certain. Nous avons des différences de projets. Je veux répondre sur la propriété, mais je vais vous parler d'écologie.
Vous avez parlé d'elle comme de quelqu'un qui est en état, je cite, d'ébriété narcissique.
Je dis, j'ai écrit ce que beaucoup de gens ont déjà dit. Ce qui est important en matière de probité, c'est de bien gérer l'argent public. Et je dis aux Parisiens, à qui voulez-vous confier 11 milliards d'euros d'argent public chaque année pendant 6 ans? 1 euro d'argent public doit être 1 euro traçable et 1 euro utile pour les Parisiens. Et je veux bien le gérer. Et ça, c'est important, la question de la probité. Et il n'y a rien de personnel là-dedans. La question de la probité, c'est une question qui appartient à chacun. Madame Dati a le droit à la présomption d'innocence. C'est un fait qu'elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel en septembre prochain. Et c'est à elle de s'en expliquer auprès des Parisiens, et notamment sur un fait qui serait maire si elle devait être condamnée. Ça, c'est un sujet qui lui appartient devant les Parisiens. Des différences, ça sont plutôt sur le projet. Moi, je préfère parler du projet. Sur l'écologie, c'est important, on a des différences majeures. Madame Dati, son projet, il est sceptique. Sur les questions écologiques, il est même régressif. Moi, je veux pas un retour en arrière. Je pense à nos enfants. Je pense aux Parisiens, je pense à la question de la santé publique. J'ai combattu Anne Hidalgo sur les comptes publics, sur l'espace public mal géré. Mais lorsqu'elle a fait les pistes à vélo, même s'il faut revoir des aménagements qui ont été mal faits, j'ai soutenu. Lorsque M. Delannoy avait fait l'aménagement des voies sur berge rive gauche, j'avais soutenu. Parce que je pense que c'est important de lutter contre la pollution. Et moi, je veux être un maire écolo, mais pas le maire de l'incantation de M. Grégoire, le maire des solutions. Je veux faire la rénovation thermique. Et grâce à mon plan d'économie, je vais pouvoir investir dans la rénovation thermique, multiplier par 3 les moyens pour la rénovation thermique du parc social, aider les copropriétés les plus modestes pour lutter contre le réchauffement climatique, baisser les factures énergétiques des Parisiens. C'est bon pour leur pouvoir d'achat.
Pierre-Yves Bournazel, sur la question de la sécurité, dont vous dites que c'est un des axes centraux et majeurs de votre programme. Vous allez plus loin que Rachida Dati, pour le coup. Elle propose par exemple 5000 policiers municipaux. Vous dites 6000 agents armés, revolvers, gilets pare-balles, contre 2200 actuellement.
Exactement.
Donc vous faites plus que doubler.
Oui, parce que je triple même, parce que j'ai un plan de financement. Madame Dati propose entre 600 millions d'euros et 1 milliard d'euros d'économies. Je propose 4,2 milliards d'économies, plus 3 milliards de rentrées grâce à la vente de 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris, qui sont en dehors de son territoire. Donc, j'ai beaucoup plus de moyens pour désendetter Paris que Madame Dati et plus de moyens pour investir, notamment sur la sécurité. 6 000 policiers formés et armés, oui, parfaitement, pour assurer la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du bleu dans nos rues, c'est dissuasif et ça permet une police municipale réactive.
Le Parc des Princes?
Anti-incivilité, anti-délinquance. Et je mettrai, pardon, chaque soir, un policier municipal en plus de la police des transports dans chaque métro pour lutter contre
dans
les
violences. Dans chaque métro?
Oui.
Pour à partir de quelle heure?
Le soir, à partir de 20h, 21h, tous les soirs pour lutter contre...
Chaque métro sur chaque ligne?
Oui, oui. C'est entre 500 au début, puis 800 agents de la police municipale. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les Parisiennes. 90% des femmes disent avoir été victimes d'une forme de harcèlement ou de violences sexistes et sexuelles dans le métro. C'est inacceptable. Maire de Paris, je les protégerai.
Vous avez dit que vous vendriez effectivement les logements qui ne sont pas dans Paris. Est-ce que vous vendez le Parc des Princes, vous ?
Oui, j'ai évolué. Je pensais qu'on aurait pu élargir le bail amphithéotique, mais le club veut partir s'il n'achète pas. Et donc, je suis pragmatique. Je veux que le PSG reste au parc. Le PSG, c'est le parc et le parc, c'est le PSG. Donc, je veux vendre, oui, mais je veux vendre le stade et l'emprise foncière. Et ainsi, je récupère de l'argent pour investir notamment sur le stationnement.
Vous avez chiffré, vous, ça vaut combien le Parc des Princes?
Plus l'emprise foncière, ouais. 1 milliard d'euros.
1 milliard d'euros?
Oui, avec l'emprise foncière.
1 milliard d'euros pour l'ensemble. Et c'est eux ensuite qui le gèrent. Qu'est-ce qu'on en fait du coup de l'emprise foncière de tout?
Bien sûr, ils auront cette responsabilité-là. Et je travaillerai avec eux parce que je serai un maire disponible. Un maire partenaire. J'aime nos clubs, le Paris Saint-Germain bien sûr, c'est pareil pour le PSC, c'est pareil pour le Stade Français en matière de rugby. Il faut aimer ces clubs, il faut les soutenir, il faut les aider. Et donc nous travaillerons ensemble en bonne intelligence. Et je demanderai au Paris Saint-Germain d'ailleurs qu'il nous réserve quand même quelques places en contrepartie pour le public qui ne peut pas accéder au stade parce que les prix du billet sont trop chers.
Hakimi, il peut continuer à jouer ?
Non, je crois que c'est mieux pour lui, c'est mieux pour le club qu'il se mette en disponibilité, oui, le temps du procès.
Vous lui demandez de sortir du club, de ne pas jouer le temps du procès?
Le temps de la décision.
Parce qu'il est, je le redis, renvoyé effectivement devant la justice.
Tout à fait.
Pour des soupçons de viol. Donc pour vous, il arrête de jouer. Là, il a joué avant-hier.
Je sais, mais je pense que...
Il a été soutenu d'ailleurs par les supporters.
Les faits qui lui sont reprochés sont très graves. Il a le droit à la présomption d'innocence. Mais je pense que le temps qu'il y ait des décisions de justice pour protéger le club, pour protéger tout le monde, la présumée victime comme lui, je pense que c'est important.
Donc Hakimi doit quitter en tout cas le temps du procès. La pelouse. Une question aussi sur le meeting de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Vous avez parlé de Madame Simonet sur la liste d'Olivier Grégoire. D'Emmanuel Grégoire, vous avez aussi cité Olivier Grégoire, d'Emmanuel Grégoire, et vous avez dit, il a fait rentrer le loup dans la bergerie. Je voudrais que vous écoutiez les propos étranges de Jean-Luc Mélenchon sur l'affaire Epstein. Écoutez.
S'il s'agit de l'affaire Epstein, ah, je voulais dire Epstein, pardon, ça fait plus russe, Epstein, hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein. Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire.
Jean-Luc Mélenchon applaudit en prononçant de manière outrancièrement juive le nom de Epstein. Comment vous réagissez ?
Ça fait froid dans le dos. C'est honteux. C'est honteux parce que incontestablement, M. Mélenchon dérive, il se radicalise, il veut exciter certaines formes... Une population, incontestablement, ça flirte avec l'antisémitisme et c'est très grave. C'est vraiment nauséabond.
Vraiment nauséabond. Bernard Cazeneuve, à l'instant, dit dans la ville de Jean Moulin, de Robert Badinter, où les milices de la collaboration ont livré tant de juifs au camp de la mort. Comment peut-on tomber dans cette fange sans honte et sans déshonneur? Mélenchon se rêvait Mitterrand, il finit comme Soral. Alain Soral, proche de Dieudonné, qui a lui-même été condamné à de nombreuses reprises. Est-ce que vous estimez que cette fin de campagne, et notamment depuis la mort de Quentin Derenck, elle a basculé?
Malheureusement, oui, il y a des bascules et elles sont dangereuses. C'est pour ça qu'il faut nous préserver notre pays et Paris de l'extrémisme politique, parce que l'extrémisme politique de gauche comme de droite nous conduit toujours à l'abîme. Il faut défendre les principes républicains. Il faut défendre nos principes démocratiques. Il faut défendre notre état de droit. Il ne faut rien céder. Et je suis un homme insusceptible de pression. Je suis un homme libre et je veux que Paris soit loin de l'extrémisme politique, parce que l'extrémisme peut peser sur la gestion d'une ville comme demain sur la gestion du pays, de manière directe en gagnant les élections ou de manière indirecte en pesant sur la conscience d'hommes de gauche et de droite, de femmes ou d'hommes de gauche et de droite. Il ne faut rien céder à l'extrémisme politique. La meilleure réponse, c'est d'être clair sur les valeurs. Je veux défendre les valeurs sur un plan national comme sur le plan parisien. L'extrémisme politique, c'est la violence verbale qui se transforme en violence physique et c'est une horreur pour le débat public français. Il faut en rester au dialogue permanent et au respect des Français.
Vous êtes soutenu par Horizon et Renaissance. Martine Vassal, qui a un certain nombre d'alliances qui ne sont pas différentes des vôtres, a dit à propos des valeurs que ses valeurs à elle, c'était travail, famille, patrie. Elle l'a dit et elle l'a même redit. Comment vous avez réagi ?
J'ai été très étonné de ces propos, parce que quand on connaît l'histoire, bien sûr que le travail, ça compte, et tous les sujets évoqués comptent. Mais travail, famille, patrie, c'est le slogan de Pétain. Et Pétain, c'est une tâche.
Il y a eu des ratés quand même là un peu, non ?
Ah là, il y a eu un raté,
ouais. Mais même dans les soutiens, parce qu'en fait, on a quand même l'impression que Édouard Philippe, il vous soutient, mais en même temps, il dit qu'il est pas du tout d'accord avec votre stratégie. Là-bas, tout d'un coup, on soutient une candidate dont on se dit qu'on partage pas forcément les valeurs.
Là, je viens d'expliquer dans votre émission, je pense, que je défends les valeurs de Paris. Et que, maire de Paris demain, l'extrémisme politique avec moi sera tenu loin de la gestion de Paris. Parce que, incontestablement, la candidature de Madame Naffo pèse sur Madame Dati. La candidature de Madame Chikirou pèse sur Monsieur Grégoire. Je veux gouverner Paris avec un bon projet, avec des solutions pour améliorer la vie des Parisiens et avec des valeurs solides pour 6 ans et en confiance.
Vous vous êtes parlé avec Édouard Philippe depuis ?
Oui, mais Édouard Philippe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ami, c'est un homme d'État, c'est un homme de très grande qualité.
Enfin, il vous a quand même désavoué.
Et je le soutiens. Il me soutient à la mairie de Paris. Il a dit, c'est projet contre projet, je défends le meilleur projet, je veux convaincre dans cette campagne, je peux gagner. Je vais gagner parce que je sais qu'une majorité de Parisiens ne veut ni Dati ni de Grégoire et ils ont bien raison, ils méritent autre chose pour Paris.
Merci beaucoup. Merci Pierre-Yves Bournazel d'avoir été mon invité ce matin. Vous êtes donc le candidat Horizon Renaissance à la mairie de Paris et donc rendez-vous le 15 et le 22. Il n'y aura pas de débat d'ailleurs, elle ne veut pas débattre.
Madame Dati ne veut pas débattre et je l'appelle ce matin à votre micro à venir débattre. Car quand on croit la force de sa candidature et de son projet, on vient débattre, c'est le moindre des respects des Parisiens.
Vous lui aurez dit, en tout cas, j'ai pas hésité à le lui dire hier. Il est 8h46 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Souvenez-vous, Raphaël Glucksmann était invité dans le face-à-face. Il avait choisi de rester face à Canteloup. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour, quel plaisir d'être là.
Alors, vous allez pas le regretter parce que Ségolène Royal, figurez-vous, arrive. Elle voulait absolument vous dire un mot.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Oui, oui.
Bonjour Raphaël. Oui, oui, j'ai trouvé votre interview formidable sur Apolline. Oui. Non, franchement, ce sera un bonheur qu'il soit élu en 2027. Mm. Mais bien sûr, il ne pourra pas embrasser cette fonction suprême sans une première dame qui soit à la hauteur.
Mm. Hein, vous l'avez compris. Ah oui. Hein, une proposition peut-être.
Bah oui, qui connaissent parfaitement les rouages du pouvoir. Hein. Et puis quand on voit comment ça évolue au Groenland, hein, je pense même qu'il serait opportun. Hein, le mot est juste opportun d'avoir une première dame qui était ambassadrice des pôles. Hein. Il n'y en a pas 36,
mais Madame Royal, Raphaël Glucksmann est en couple.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va arrêter un président de gauche.
Oui.
Hein. Un vrai président qui se dit de gauche, ça doit savoir tromper sa femme, pardon. Oh. Hein, voilà, vous pensez à quelqu'un?
Oui, non, pas
oui,
du tout.
Oui, mon petit. Voilà. Hein, mais il n'y a pas que lui, c'est Mitterrand, regardez. Ah oui, il a même poussé le bouchon très loin, il avait même une fille cachée. Hein, bon, on n'en est pas là, en tout cas, voilà. Que Raphaël sache que j'ai un scooter.
Ah oui.
Je connais des bonnes boulangeries. Je suis matinal. Si vous aimez les croissants, j'ai un peu de temps, je peux livrer.
Angela Merkel est avec nous.
Ah, bonjour, madame de Malheur. Bonjour à Thierry Breton. Bonjour à tous les Français. Tripoli, toujours. Je l'ai connu, toujours. Tripoli, bien appuyé. Toujours. Bonjour à tous les Français. Ah. j'ai écouté Tri Breton, l'actualité, pas rigolo, hein.
Non, pas rigolo, non.
Mais heureusement, il y a Macron pour sauver l'Europe, et le nouveau Tom Cruise, et avec ses lunettes, et oui, fille, a fait entre Tom Cruise et Jacques Dutronc.
Oui, hein,
il lui chante en boucle à Trump, tu es le plus grand des voleurs, mais t'es pas très gentleman. Oui, ça l'énerve, le Donald, ça l'énerve. Mais il est très beau, Macron, avec ses lunettes sexy. Moi, si j'avais 20 ans de moins, je souhaiterais mon douche, j'aurais tenté quelque chose.
Ah, oui.
Mais voilà, c'est pas grave, je vais me rabattre sur Thierry Breton, voilà.
Trump, si vous le voulez bien. Alors, comment peut-on arrêter Trump?
Ah ben c'est bon, il va être arrêté, Trump. On a envoyé des soldats au Groenland. Et des soldats allemands, des commandos très sévères, très très durs. Et à côté de ça, il y a les soldats français pour rigoler de la 7e compagnie au clair de lune. Ah, j'ai glissé, chef. Et sinon, il y a une autre méthode. Puisque Trump, il va à Davos, en Suisse, et on peut peut-être, pour arrêter Trump, lui présenter le prof de ski de Schumacher.
Oh non.
C'est pas rigolo.
Non, vous pouvez pas.
Je me tape les perches dures.
Non.
Ça fait des vaguelettes. Comme on dit à Paris, fluctuat nec me perches dures.
François Hollande était mon invité. Il est encore avec nous, monsieur le Président.
Ah, écoutez, ce sont de très bonnes habitudes, madame de Malherbe.
Quelles bonnes habitudes?
Mais celle de m'appeler monsieur le Président. Et comme toutes les bonnes habitudes, je vous invite à les, et vous encourage à les conserver, madame de Malherbe. Bref, je ne suis pas là pour rappeler que j'étais Président de la République, comme je le fais habituellement toutes les cinq phrases. Puisque, je ne le fais pas puisque vous le faites à ma place. Et d'ailleurs, le Président de la République que j'étais vous en remercie.
Bah justement, tiens, vous laissez quand même planer le doute sur votre candidature pour 2027, non?
Non, pardon, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne laisse pas planer le doute. Pardon. Excusez-moi, j'ai une petite remontée, ce sont les viennoiseries. Oui, j'ai un peu tapé dedans. Et c'est vrai qu'à la quatrième, je me suis dit, il faut que tu t'arrêtes. Et vous voyez, j'étais bien inspiré. Oui, donc je disais qu'il n'y a pas de doute. J'ai dit que le candidat de gauche devait soutenir la gauche,
oui,
devait soutenir le meilleur candidat. Quand je dis meilleur candidat, vous pensez que je parlais de qui? De Jérôme Gage, de Boris Vallot. Alors, je sais que nous sommes dans le cadre d'une émission humoristique, mais quand même. Et pourquoi pas aussi Olivier Faure 2027. J'imagine déjà la liesse sur les Champs-Élysées.
On revient à présent sur les réquisitions au procès de Marine Le Pen avec Jean-Louis Borloo. Bonjour, Jean-Louis Borloo. Vous êtes un avocat d'ailleurs.
Mais c'est quoi ce bordel de jugement, Mme Le Pen? Mais il y a des intelligentes au setup, mais on n'y comprend que dalle. T'ouvres une chaîne info, une radio, la vote, une note, on s'en fout. Si t'as pas un doctorat en droit, t'es condamné. Tu comprends rien, t'es condamné à regarder Gulli. Voilà. Même moi, pourtant, je suis avocat, j'ai le diplôme. Bon, je sais pas où j'ai foutu, mais enfin, bon, bref. Hein, mais je suis paumé. Mais il y a des cours, on ne comprend rien au jugement. Il y a des cours d'appel, des cours de cassation, des cours européennes d'appel, de cassation, des droits de l'homme européens. Il y a de la prison ferme, du sursis ferme sous bracelet, des exécutions immédiates, des exécutions différées, des exécutions. Il dort déjà, Texer. Des exécutions provisoirement immédiates à effet différé. Mais c'est imbitable, pardon, on comprend rien, mais pardon, mais les faut me simplifier ça, les enfants. Moi, depuis le temps, moi, quand j'étais avocat de Bernard Tapie, Marshall, il le sait, j'étais avocat de Bernard Tapie. Moi, c'était simple, à l'époque, tu payais 200 000 balles, t'allais 6 mois en cabane, c'était clair, voilà, fin du jugement. Aujourd'hui, c'est tout juste si on dit pas si le juge à Mercure en Verseau, ce sera applicable que pour les prévenus Capricorne du deuxième décan. Non, mais
non, c'est sûr.
Il y a juste un truc, Pauline de Malherbe. Il y a juste un truc où c'est clair. Si tu bosses chez CNews, là, t'es sûr que ta condamnation ne t'empêchera pas de continuer à bosser.
Merci, monsieur Borloo.
Merci Nicolas, Nicolas Canteloup. On vous retrouve évidemment lundi 8h50 et à tout moment en podcast sur RMC. Dans un instant, les grandes gueules. Quel est le programme, Alain Marchal?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Les grandes gueules sont encore au Salon de l'agriculture tout à l'heure de 9h à midi. Nous sommes au stand des Hauts-de-France, au Hall 7, avec Antoine Diers, le consultant juridique, Jérôme Marty, le médecin généraliste, et Laura Varton-Martinez, la sophrologue.